Alors, la musique, un secteur culturel, un domaine de passionnés, d'artistes, mais aussi d'entrepreneurs. La musique est une filière économique importante et innovante qui connaît une croissance continue. Mais concrètement, ça donne quoi l'équation musique, passion, tech et entrepreneur? Eh bien, de belles histoires, comme celle de Bliss. Et c'est donc à travers trois parcours passionnants et passionnés que je vous propose d'appréhender l'innovation et l'entrepreneuriat dans une industrie créative en plein bouleversement. Bienvenue sur cette cinquième causerie de la Plaine. Je suis Blandine Lebourg, responsable éditoriale événementielle de la Plaine Image, et j'ai le plaisir d'accueillir Vianney, William et Alexis de la société Bliss. Bonjour à tous les trois, comment allez-vous?
Salut, ça va?
Ça va très très bien. William n'a pas de micro, du coup on va l'entendre de loin uniquement.
Oui, mais il est bien parmi nous. Et pour notre plus grand plaisir. Alors, d'abord, Bliss, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites et quelle est votre société?
Alors, Bliss, c'est une entreprise de création de logiciels de musique, donc essentiellement orientée vers les téléphones. Donc, on a commencé notre activité en faisant des applications pour faire de la musique pour les musiciens aussi bien expérimentés que néophytes, essentiellement sur iPhone et iPad parce que la plateforme Apple offre vachement plus de facilité pour le faire. Et notre objectif dans les prochaines années, c'est de passer sur d'autres plateformes et de devenir un grand fabricant de logiciels de musique peut-être un jour, je ne sais pas.
Mais du coup, comment s'est créée la société d'où vous êtes, d'où venez d'où, comment vous êtes rencontrés et finalement comment tout ça a émergé?
On s'est rencontrés par la musique justement. Lorsque j'ai rencontré d'abord, c'est Alexis il y a maintenant plus de 10 ans. À l'époque, j'avais une agence de communication web qui était spécialisée dans la musique. Et à côté de ça, j'avais décidé de monter un label, qui s'appelait Label d'ailleurs, nom très original. Et à l'époque, Alexis faisait partie du groupe Chico Chico, groupe de rock, mat rock.
Rock foufou, on va dire.
Rock foufou, voilà, du rock mutant, comme on l'appelait à l'époque. Et on était amené comme ça à sortir des disques et moi accompagner le groupe pour le développer et pour trouver un label.
Ok, disons que t'étais déjà entrepreneur en fait.
Voilà, à l'époque, moi j'avais une agence de com et à côté de ça, comme j'estimais que j'ai pas assez de travail, je m'étais dit je vais faire un label qui va rapporter zéro à côté mais qui va quand même aller dans le sens toujours de cette passion de défendre des artistes que j'aimais particulièrement. Et donc Alexis était guitariste du groupe Chico Chico, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Ouais, voilà, c'est ça. Et puis c'est par l'intermédiaire aussi de Thomas Fourny, donc troisième nom assez important dans l'histoire de Bliss, qui nous a fait nous rencontrer. En fait, Thomas m'a dit, tu cherches à sortir des morceaux sur Internet, il faut que tu rencontres Vianney, c'est lui qui va t'aider à les faire écouter à tout le monde, etc.
Voilà. Et ensuite, le troisième larron à l'origine de Bliss, c'est évidemment Thomas Fourny qui faisait partie notamment du groupe Ouillard Enfant Terrible. Et en fait, il faisait beaucoup de tournées à une époque et il s'est retrouvé beaucoup de temps dans les transports. Et en fait, il s'est du coup naturellement tourné vers l'iPad d'abord. Et là, parce que c'était beaucoup plus simple pour faire de la musique en fait dans le bus, en tournée, dans les avions. Et il est parti en fait du constat qu'il y avait beaucoup d'applis, mais qui souvent copiaient ce qui existait déjà. Et qui, plus est, était souvent lourde, complexe, et qu'elle n'allait pas vers ce que lui cherchait, c'est à savoir la création musicale. Et de là est venue la vision Groovebox, qui était notre tout premier produit avec lequel on a lancé l'activité de Bliss. Donc un produit qu'il avait prototypé sur Pure Data, et après qu'Alexis était amené à industrialiser pour le rendre performant sur la plateforme iOS.
C'était il y a combien de temps?
Ça, c'était il y a 4 ans, je vais dire, parce que Thomas est venu me voir. En fait, moi, à l'époque, j'étais... Je faisais de la musique avec mon groupe, mais je travaillais toute la semaine dans l'entreprise Avolut, donc j'avais pu me faire la main sur tout ce qui était développement audio et tout ce qui était l'informatique en général, le développement, tout ça. Et Thomas est venu me voir, il m'a dit « Bon, toi, tu as l'air de savoir comment on fait. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait une application sur téléphone ?» Et donc, du coup, en fait, au début, je lui ai juste donné des conseils. Je lui ai dit « Ben, faut que tu t'orientes vers ce langage-là, faut que tu fasses comme ça. » Et au fur et à mesure, il s'est rendu compte que il avait besoin de moi. Et donc du coup, le soir, en fait, il venait chez moi, puis on commençait à bidouiller. Et je lui ai dit t'inquiète pas, Thomas, en fait, je vais prendre ton prototype et je vais refaire une version bien. Et voilà. Et en fait, ça a commencé un peu comme ça, juste le soir, l'idée de pas vraiment, l'idée, c'était pas vraiment de créer une entreprise à la base, c'était juste de créer une application qui déchire. Donc, de faire quelque chose qu'on aime bien, quoi. Et au fur et à mesure, on s'est dit, ben, ça serait quand même dommage de juste faire une application, en fait, pour supporter tout ce que ça induit derrière de gestion, de vision, etc. On a créé l'entreprise avec Vianney. Et ensuite, avec Vianney, on s'est dit, ben, en fait, ça serait dommage de se contenter de faire une Groovebox maintenant qu'on a acquis la connaissance pour faire des applications de musique. On va en faire plein, parce qu'on aime ça.
Oui, surtout que j'imagine que si vous l'avez fait, c'est que vous n'aviez pas trouvé, en tout cas que Thomas, du coup, n'avait pas trouvé ce qu'il lui fallait sur le marché. Et oui. Donc, il y avait certainement un segment à explorer.
Mm-hmm. Absolument. La Groovebox est quand même un produit qui est assez unique en son genre. Et après, bah, depuis, en tout cas, en 2 ans, on a sorti maintenant 9 produits, en tout cas sous la marque Bliss. Un synthétiseur, une Groovebox et toute une batterie d'effets qui ont notamment été développés pour beaucoup par William également.
Et qui sont toutes disponibles en version mobile.
Qui sont actuellement disponibles pour iOS, mais qui sont bientôt disponibles sur les plateformes Mac et Windows.
Et du coup, quand on se dit, tiens, on tient quelque chose, on devrait créer une entreprise, on fait comment? Parce que finalement, c'est quand même un secteur assez particulier, le secteur de la musique, aussi culturel, c'est de la passion. Voilà, comment on s'y prend? On se dit, tiens, je vais créer une boîte. Je fais quoi?
Bah, comme n'importe quelle boîte, en fait. Hein, et d'ailleurs, pour ça, effectivement, ce qui a vraiment facilité la possibilité de créer cette boîte, ça a été justement d'être incubé à Pleine Image. C'est pour nous été vraiment la première étape fondatrice. On avait déjà des prototypes, mais le fait d'être accepté en tant que dans le dispositif d'incubation de la Pleine Image, ça nous donnait du coup un cadre, un local, une espèce de discipline qui en fait nous mettait vraiment aussi dans la posture de dire eh ben voilà, on a maintenant tous les outils pour pouvoir créer cette boîte.
Ça a rendu les choses officielles en fait.
Voilà, ouais. Ça, c'est un peu ça.
Et du coup, ça, comme disait Vianney, ça donnait vraiment un cadre et on se disait, ok, bon, ben là, on y va, quoi. C'est, y a plus...
Voilà. Le matin, tu te lèves, tu vas au boulot, tu vas au bureau, tu restes pas chez toi à coder dans ton salon, quoi. Et donc ça, c'était déjà un premier point qui était très important. Puis après, il s'agissait effectivement de faire un business plan, d'étudier le marché, de voir ses failles, de se préparer et de réaliser également toutes les étapes administratives et aussi financière pour pouvoir créer Bliss. Donc ça a été fait il y a maintenant 2 ans, en septembre, ça fait 2 ans qu'on existe. On a fêté nos 2 ans il n'y a pas très longtemps avec une bonne soirée karaoké d'ailleurs.
Mais du coup, il y a des particularités ou bien finalement vous vous dites non, on est plutôt une boîte qui on fait de la tech, de toute façon on fait des apps, ou bien vous dites non, on avait besoin de trouver quelque chose de particulier parce qu'on appartient à un secteur qui est quand même assez culturel et créatif.
En fait, il y a deux choses. Je pense que on fait des applications dont on sert, en fait, déjà, premièrement. C'est-à-dire que nous, on ressent déjà un besoin de les faire parce qu'on veut les faire, on en a besoin. On fait des choses qu'on ne trouve pas sur le marché, donc on se dit, bon, si je ne le trouve pas sur le marché, je vais le faire moi-même. Déjà, c'est une première chose. Et ensuite, on est vraiment dans quelque chose qui nous passionne. Donc, du coup, je ne sais pas comment dire, on a envie de le faire, quoi. Il y a quelque chose qui est...
Oui, et puis j'ajouterais que même si d'un point de vue technique, économique, administratif, bah c'est la même chose que pour toutes les autres boîtes, d'accord ? À la différence peut-être que la musique a peut-être parfois un peu moins d'attrait pour les investisseurs que si tu proposes un business de e-commerce ou de fintech, que sais-je.
Encore un peu de travail, mais ça devrait changer.
Ça devrait, oui, c'est vrai que ça devrait changer, mais en tout cas, bon, il y avait ce premier point, mais effectivement, comme dit Alexis, c'est une histoire de passion, c'est vraiment une histoire de sens, en fait. Ouais. Et ce qui nous a aidé, c'est en fait d'avoir fait des jobs qui, pour nous, avait à un moment peu, voire plus de sens. Et moi, ça me donnait justement, créer Bliss, c'était aussi l'occasion de faire quelque chose qui enfin avait du sens pour moi, alors qu'avant, j'avais un job d'ingénieur d'affaires en SS2I qui à un moment perdait de son sens et dans lequel je ne me retrouvais plus vraiment. Donc, c'était finalement logique. Comme en plus, j'avais déjà travaillé dans la musique et que je savais que c'était faisable, finalement, on s'est dit, allons-y, quoi.
Bon, et puis au-delà de toute cette application, vous avez quand même sorti quelque chose d'assez vraiment novateur et révolutionnaire, je pense. On peut parler peut-être de l'œuvre E.ON. Vous pouvez m'en dire un peu plus.
Alors, E.ON, comment le décrire? En fait, les gens de chez Apple ils disent que c'est une application...
Un objet musical non identifié.
Un objet applicatif non identifié. Donc un AONI. Donc c'est pas facile à dire. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une application où on ne fait rien. En fait, on écoute et on regarde. Et c'est une espèce d'album infini de Jean-Michel Jarre avec une génération de visuels infinis qui sont, se veulent synesthésiques, c'est-à-dire qui correspondent à la musique. Et en fait, voilà, donc c'est la vision de Jean-Michel Jarre, là-bas, c'était que chacun puisse avoir une musique qui soit unique et qui lui corresponde. Et donc, en fait, si chacun ouvre son téléphone et lance l'application Aeon en même temps, tout le monde aura des résultats différents. C'est-à-dire que c'est un générateur de musique, qui est un générateur de musique de Jean-Michel Jarre. Et c'est quelque chose qui n'est pas... C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que ça se base pas sur des réseaux de neurones ou sur de... Voilà, on capte pas qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que les gens veulent écouter. C'est vraiment une vision d'artiste, un algorithme fine-tuné par un artiste qui va créer une espèce de musique qui correspond vraiment à la vision de Jean-Michel Jarre.
On écoute un petit morceau ?
Alors, ouais,
je sais pas si on dit morceau.
On peut plus dire morceau. Ça. Là, tu viens de lancer l'application, alors.
Presque. Et du coup, si je la relance, j'entendrai toujours quelque chose de complètement différent, si j'ai bien compris.
Voilà.
Et il y a aussi la partie visuelle. Donc, là, vous nous entendez. Donc, je vous invite à la télécharger si vous voulez avoir l'expérience complète. Ouais. Mais du coup, quand on est une jeune entreprise qui vient de se créer, comment on rencontre Jean-Michel Jarre et comment on se retrouve à développer un tel objet, en fait, qui est quand même assez unique et qui peut quand même... révolutionner la musique enregistrée. Voilà, c'est un album, finalement.
Oui, voilà. Je pense que c'est une manière de revoir la musique parce qu'il y a la musique enregistrée, il y a la musique écrite. Et là, on est dans quelque chose qui est un peu nouveau, c'est la musique générative. C'est-à-dire que ce n'est pas une partition qui est écrite, ce n'est pas quelque chose qui est enregistré, c'est quelque chose qui... C'est une partition qui se génère et qui va être lue par un algorithme.
Ça, et puis c'est aussi un changement de paradigme, parce que jusqu'alors, la musique, on l'écoutait avec toujours un début et une fin. Même une chanson traditionnelle avait toujours un début et une fin plus ou moins long. Et en fait, la particularité d'Aeon, c'est qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et en fait, si tu écoutes assez longtemps Aeon, que tu te laisses un peu hypnotiser par les visuels, tu vas avoir une espèce d'appréhension de ce qu'est l'infini. Parce que justement, c'est un concept qui n'est pas entendable, qu'on n'arrive pas à abstraire pour nous, les humains, puisque tout est fini pour nous, y compris notre vie. Mais derrière le concept de Aeon, donc Aeon en plus c'est un terme grec, qui fait référence justement au dieu des éons, et donc pas du temps, hein, pas confondre avec Chronos.
Ouais. Je ne sais plus.
Donc les mythologies grecques derrière, effectivement, qui fait référence à tout ce qui est intemporel. Et en fait, cette intemporalité, on peut un peu s'y perdre dans Aeon, et c'est ce qui fait que c'est aussi particulier comme œuvre musicale. Qui en ça est vraiment révolutionnaire et unique. D'ailleurs, elle est actuellement exposée au Palais des Beaux-Arts dans le cadre de
l'Open Museum.
L'Open Museum Musique, la 6e édition. Et cette occasion-là a été notamment rendue possible grâce au travail de Pleine Image et notamment de Laurent Tricard qui nous a mis en relation avec Lille Métropole et aussi avec l'équipe du Palais des Beaux-Arts. Donc c'est d'ailleurs une œuvre, c'est un très beau partenariat entre Pleine Image, Bliss, Jean-Michel Jarre, Sony CSL pour la partie visuelle.
Je voudrais rajouter aussi quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre et qui va se fermer, voilà. Merci William. William est là pour ouvrir et fermer les portes, mais surtout les fermer. Et ce que je voudrais rajouter, c'est juste que pour nous, c'est important aussi de se baser sur le téléphone et ce qu'on disait avec la Groovebox quand on l'a créé, quand on a créé notre premier produit, on s'est dit c'est le téléphone ou l'iPad, ce sont des objets d'aliénation. On va être complètement asservi par l'objet et on voulait faire des applications où les gens pouvaient transcender ça et se servir du téléphone ou de la tablette comme quelque chose de créatif. Et ce qu'on a réussi avec Aeon, c'est pas faire quelque chose de créatif, mais faire quelque chose d'artistique, c'est-à-dire de mettre une œuvre sur un téléphone. Et finalement, quand il y a Aeon sur le téléphone, il y a juste Aeon, il n'y a plus rien. Et en fait, c'est pas la vie qui s'arrête, mais c'est la vie du téléphone qui s'arrête et qui se calme. Et c'est Aeon qui maintenant prend le relais. Et du coup, je trouve ça chouette en termes de sens, en termes de portée, de ce que ça peut avoir, parce que pour nous, c'est important que les gens reprennent un petit peu le contrôle de leur téléphone ou de leur tablette et que ce ne soit pas les téléphones et les tablettes qui prennent le contrôle de leur vie.
Oui, et du coup, c'est vraiment devenu neuf, c'est entré au musée. D'ailleurs, c'est vrai que c'est sur un écran assez beaucoup plus grand que celui d'un téléphone et c'est assez contemplatif, en fait, finalement, pour l'avoir vécu. On pourrait rester devant assez longtemps. Mais du coup, vous ne m'avez quand même toujours pas dit comment vous aviez rencontré Jean-Michel Jarre et comment vous aviez travaillé avec lui.
Non, en fait, c'est... Il y a deux choses. Bon, moi, je crois quand même que c'est une sorte d'alignement de planètes absolument incroyable. Parce que ce que Alexis vous dit pas, c'est que ce qui a fait qu'il s'est mis à faire de la musique quand il était tout jeune, c'est Jean-Michel Jarre.
Ouais, quand j'avais 3 ans, je regardais son concert à Paris, qui est en VHS en boucle, en fait. Donc, et mes parents n'en pouvaient plus. C'est comme si toi, tu regardais Tom et Jerry en boucle, la même cassette, et moi, je regardais tout le temps son concert de comment on dit là? Là où il y a le... Enfin bref, peu importe.
Je regardais le 14 juillet, vous voyez, celui-là.
Non, ouais, de toute façon, c'est toujours le 14 juillet. Et en fait, voilà, moi, je suis ultra fan de Jean-Michel Jarre, mais parce que c'est à cause de lui que je fais de la musique et à cause de lui que je bidouille sur les ordinateurs depuis que je suis tout jeune.
Et même artistiquement aussi, voilà, la musique que tu fais quand même pas mal influencée. Et d'ailleurs, en fait, il y a une entente musicale et artistique, notamment entre Alexis et Jean-Michel Jarre, qui est assez en fait incroyable et qui a fait que tout de suite ça a très très bien marché. Comment est-ce qu'on est arrivé donc à rencontrer Jean-Michel Jarre?
C'est la question que tout le monde se pose.
C'est un peu grâce à c'est en partie aussi, alors déjà grâce à notre ami Oliver Greschke, qui est un développeur d'applications de musique, notamment Elastic Drum, qui est disponible également sur l'App Store, une super appli de drum machine qui est basée à Berlin. Et c'est devenu un ami parce qu'en fait Thomas Fourny, lorsqu'on était en train de fomenter la création de Bliss, avait décidé de faire un stage à Berlin chez ce développeur. Et du coup, je lui dis, quoi, t'es à Berlin? Vas-y, j'arrive. Et du coup, on est venu avec Alexis, on a passé un week-end, on a fait connaissance avec Oliver Greschke, et depuis lors, on était toujours resté en contact. Et en fait, il s'avérait que Bliss et les compétences d'Alexis, on avait des trucs, on savait faire des trucs que Oliver ne savait pas. Il nous avait demandé des coups de main régulièrement pour du développement, justement. On collaborait à distance. Et un jour, en fait, il avait fait un salon, donc le Superboost à Berlin, justement. Ouais. On ne pouvait pas y aller parce qu'on était encore un peu trop petit. Et là-dessus, quelqu'un le contacte, dit « Je dois faire une application musicale pour un artiste très connu. Est-ce que ça t'intéresse ?» Il a dit « Oui, oui. » Et tout de suite, il nous a contacté en disant « Les gars, apparemment, c'est un gros sujet. On se met ensemble pour répondre, entre guillemets, à l'appel d'offres. » De fil en aiguille, effectivement, on a fait le Skype, on a découvert que c'était un projet de Jean-Michel Jarre, on a vraiment tilté sur le projet, on a parlé de la technique, et on s'est rendu compte que finalement, il était plus judicieux qu'on reprenne en direct le projet, à la fois pour les questions techniques, mais aussi les questions de proximité, que Oliver, justement, avait fait appel à nos services, parce que lui, il avait déjà un gros projet sur lequel il avait plus le temps. Donc, d'ailleurs, de très très bon cœur, il nous a finalement laissé la main sur ce projet. C'est un peu comme ça qu'on en est venu finalement à collaborer avec Jean-Michel Jarre.
On ne le remerciera jamais assez, je pense.
Oui, d'ailleurs, on doit lui filer quelques trucs. Hein.
Et du coup, Alexis, quand tu te rends compte que c'est Jean-Michel Jarre, tu retombes en enfance, quoi. Comme un enfant, j'imagine. Ouais.
C'était un peu dingue. Bah, maintenant, je me dis que j'ai fait une liste, qu'est-ce que je dois faire dans la vie, et là, c'est bon, en fait. Voilà, j'ai tout fait.
Tu peux mourir.
Ouais, voilà, c'est ça.
Bon, eh bien, du coup, William, j'ai quand même une question.
C'est vrai, William.
On t'a pas encore entendu. Comment, toi, tu as rejoint, du coup, l'aventure Bliss un peu plus tard? Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, du coup, plus ton parcours? Comment t'es arrivé là? Ce que tu fais aujourd'hui?
Ouais. Alors, moi, j'ai pas connu l'aventure vraiment tout de suite comme Alexis et Vianney. En fait, moi, j'avais ma propre aventure au début. Tout à l'heure, Vianney parlait d'avoir un boulot qui a vraiment du sens et un projet qui a vraiment du sens. Et moi, c'est vraiment ce que je cherchais il y a 3 ans à la sortie de mes études. J'avais commencé à bidouiller un petit peu, pareil, l'informatique, la musique et tout ça. Ça fait longtemps que je fais de la musique. Et en fait, j'avais découvert la réalité virtuelle. Et donc, j'avais mon propre projet. C'était de faire une application de réalité virtuelle qui permettait de faire et de composer de la musique. Donc, ça s'appelle Modulia Studio. Donc, j'ai commencé à développer ça et donc il y a 3 ans, pareil, en fait, je suis arrivé à la pleine image et c'est comme ça que j'ai rencontré Vianney et Alexis. Donc, on était deux projets dans l'incubateur. Donc, on développait de notre côté comme ça notre projet respectif. Et donc, voilà, j'ai aussi eu la chance de pouvoir mener un projet qui me tenait à cœur et que j'ai pu développer au plus possible. Donc, c'est un projet qui était... Donc c'est d'un côté de la réalité virtuelle, d'un côté de la musique. Donc c'est un peu un marché de niche dans un marché de niche. Donc c'est un projet que j'ai réussi à mener là où je voulais l'amener, mais bien sûr qui était compliqué de rendre rentable. Et c'était un moment où je cherchais un petit peu aussi d'autres opportunités de trouver d'autres projets. Et ça tombait très bien en fait parce que quasiment 1 ou 2 semaines avant la sortie d'Eon, justement, Vianney m'a contacté pour me dire on a un gros projet qui sort, on va en avoir des gros par la suite, on aimerait bien discuter avec toi. Donc on s'est fait un couscous ici à Roubaix, pas très loin.
Il était très bon, très bon, très bonne adresse. Je ne sais plus comment s'appelle le restaurant, mais c'était chouette.
Je ne sais plus.
Il est à côté de la gare de Roubaix.
À côté de la gare de Roubaix, je reprends les mots de Vianney qui n'a pas de micro. Il va regarder sur Internet.
Donc
on mettra un lien en bas du podcast.
Le meilleur couscous de Roubaix.
Okay.
Donc un excellent couscous. Et puis en fait, ça s'est fait très naturellement. J'ai rejoint la boîte. Et puis depuis, je participe au développement des projets. J'ai été amené à travailler sur Eon, à travailler sur d'autres plugins qu'on a sortis depuis. Et c'est que du bonheur.
Ouais, et c'est un excellent recrutement.
Merci Alex.
Il est devenu un compagnon de route.
Merci beaucoup.
Et donc du coup, voilà, tu fais quelque chose qui a du sens encore aujourd'hui. Voilà, donc des belles histoires, je le disais au début, mais je pense que c'est très vrai. Vous représentez vraiment ces belles histoires qui peuvent se construire dans un écosystème, mais même en dehors, en fait, quand on se développe. Du coup, j'ai une dernière question, mais voilà, vous faites de la musique. Vous vivez de musique de passion, mais vous faites aussi de la tech, quoi, en fait, finalement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de musique tech, on va dire quoi, l'innovation au service de la musique, je ne sais pas. En tout cas, est-ce que vous pouvez nous en... Quelle est votre vision de la musique tech, si vous jugez qu'il y a une filière qui est en train de se développer, en tout cas chez nous comme à l'international. Et voilà, comment vous imaginez le développement de cette filière demain, justement, est-ce que ça attirera davantage de financeurs, on va dire, au-delà des investisseurs, même d'être suivi par des banques ou des choses comme ça, ça reste important et peut-être plus difficile dans ces secteurs-là. Ouais, quelle est votre vision de ce marché ?
En fait, il y a une vraie réalité, c'est que déjà, la musique enregistrée aujourd'hui, elle est électronique. En fait, tout ce qu'on écoute, c'est beaucoup de musique électronique parce que dès qu'il y a un son qui est enregistré, ça devient de la musique électronique. Et du coup, en fait, il y a un énorme essor de tous les outils, aussi bien hardware que software, pour créer de la musique. Et aussi, au niveau des constructeurs hardware, les prix commencent à baisser, tout le monde s'équipe, les musiciens, ils sont de plus en plus intéressés par tout ce qui est outils électroniques. Donc en fait, c'est un marché qui est totalement en explosion. Et aussi, les possibilités d'innovation et les possibilités de création d'instruments, elles sont quasi infinies. Il y a toujours quelqu'un qui a une nouvelle idée. Et le nombre de constructeurs, je parle déjà du hardware, le nombre de constructeurs de machines est juste complètement dingue, en fait. Et les gens achètent des nouvelles machines parce qu'ils veulent des nouveaux outils pour créer. Et au niveau du software, ce n'est pas quelque chose de nouveau parce que déjà les plugins, ce que j'appelle des plugins, c'est des petits bouts de logiciels qu'on va mettre dans un gros logiciel de musique. Et ça existe depuis les années 90. Et en fait, ça n'arrête pas de se développer. Il y en a des gratuits, il y en a des payants, il y a des gros acteurs dans le milieu et tous innovent tout le temps avec à chaque fois peut-être une toute petite idée, mais ça va apporter quelque chose de nouveau. Et c'est un secteur qui est passionnant parce qu'il y a des innovations tous les jours. Et on suit un petit peu ce qui se fait, et même des fois on est inondé parce qu'il y a trop de choses et on n'arrive pas à tout digérer, on a du mal à suivre ce qui se passe. Et c'est ça qui est génial parce que en fait... C'est quelque chose qui est en effervescence totale et on sait pas où ça va arrêter, on voit pas les limites, en fait, parce que même aujourd'hui l'application de Jean-Michel Jarre, c'est de l'algorithme qui crée de la musique. Nous, c'est déjà une première pierre, mais en fait on a plein d'idées, on voudrait améliorer l'application à l'infini pour ajouter plein de choses. On a dû se cantonner à une première pierre à l'édifice, mais en fait ce qu'on a en tête, c'est complètement dingue. Si on avait les moyens de le faire, ça serait encore plus fou. Donc voilà, enfin, c'est ça qui est marrant parce qu'en fait, je pense que les gens n'ont pas idée à quel point il y a de l'innovation et à quel point il y a des choses à faire justement dans les instruments de musique. Vianney, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, j'ajouterais rapidement, effectivement, comme tu disais, au-delà que c'est un marché qui a du potentiel, c'est aussi les technologies qu'on surveille de très très près, puisque la VR et la réalité augmentée sont également des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Et c'est encore plus pour William, hein, c'est au contraire pas une idée qu'on regarde de loin, mais au contraire, on a la chance en plus de travailler avec un pionnier. Jean-Michel Jarre, il a quand même fait le premier vrai live concert en VR à la Fête de la Musique cette année. Et c'est sans doute pas son dernier. Et donc, du coup, il y a la VR, l'AR et d'une manière générale aussi, le fait que de plus en plus le musicien va avoir cette posture de curateur, c'est-à-dire que on est en train de voir s'éloigner toute la difficulté technique qui avant était réservée à une élite, d'avoir un studio, de savoir régler un synthétiseur, tous les trucs vraiment qui avaient une très très haute technicité. Aujourd'hui c'est de plus en plus accessible, l'iPad Music en est un très bon exemple, et on va de plus en plus vers un point où justement le musicien peut presque juste positionner en curateur, c'est-à-dire que la machine va lui proposer des sons et il va dire ça j'aime bien, ça j'aime pas. Il va swiper à gauche ou swiper à droite, entre guillemets. Je veux pas dire comme sur Tinder, mais presque. Et en gros, c'est comme ça aussi qu'il va aller construire sa musique, qu'il va exprimer son goût. Il y a mille façons de faire de la musique et qui sont de plus en plus accessibles sans être trop, comment dire, casu, comme on pourrait dire. Et ça, c'est une dimension aussi qui représente un grand potentiel et qui, effectivement, devrait intéresser accessoirement les investisseurs dans le futur.
Ouais, ce qui est, je voudrais juste rajouter un truc, c'est que ce qui est dingue, c'est que je reprends l'exemple de Jean-Michel Jarre. Quand lui, il a commencé à la fin des années 60 et au début des années 70, avoir un studio, avoir des choses pour enregistrer des sons, c'était extrêmement difficile. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer de la musique, même quelqu'un qui n'a aucune connaissance en musique. Il y a plein de logiciels qui vous permettent de faire de la musique très simplement avec des bases. Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est parce que du coup, c'est un marché qui est de plus en plus accessible. Plein de gens peuvent trouver des ressources. Et aujourd'hui, enregistrer un album, ça coûte rien en fait. Donc, on n'a plus besoin d'aller dans un studio à je ne sais pas combien de millions d'euros avec je ne sais pas quel producteur pour jouer sur tel instrument qui coûte je ne sais pas combien. On peut avoir des résultats super avec des outils qui coûtent pas cher. Après, voilà, c'est juste, finalement, ce qui va s'exprimer, c'est juste le talent en fait, des gens et pas forcément juste la technicité. C'est ça qui est aussi intéressant. Donc, du coup, c'est pour ça que le marché est en totale explosion, parce que depuis 10 ans, on voit les prix baisser, parce que c'est de plus en plus accessible, tout le monde s'équipe avec du matériel de musique électronique, et nous, on se place là-dedans et on essaye d'offrir quelque chose d'innovant et de ludique aussi aux gens.
J'avais dit que c'était la dernière question, mais en fait, j'en aurais encore plein, donc juste une dernière question bonus. Vos projets, là, du coup, aujourd'hui, demain, sur quoi vous travaillez, si vous pouvez en parler un petit peu, et voilà, où vous voyez dans les prochains temps
Ce que je disais tout à l'heure, il y a déjà toutes les applications qu'on a faites pour iOS, mais la prochaine étape, ça va être de pouvoir travailler sur Mac et PC, proposer nos produits donc à un public un petit peu plus pro, entre guillemets, puisque historiquement, les gens utilisent beaucoup le PC et le Mac pour faire la musique aussi. Il y a également des projets qui sortiront tôt ou tard en VR et en AR en 2021. On est vraiment décidé de faire ça. Et puis également, on a la chance de collaborer par exemple avec nos associés Carafun qui font du karaoké, qui sont basés ici dans la région. On travaille sur des sujets communs. On a été amené comme ça à intervenir aussi en partenariat avec d'autres entreprises. On a même été par exemple amené à collaborer avec Petit Bambou qui est également basé à Pleine Image. Et donc ça fait également partie des projets à venir. Donc voilà, en synthèse, PC, Windows, VR, peut-être AR aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a les technologies commencent à être suffisamment mûres pour proposer quelque chose de vraiment nouveau dans la pratique musicale.
Merci beaucoup. Tu es un bel ambassadeur de Pleine Image. Je te remercie.
Ouais, il est très fort.
Il est fort. L'idée n'était pas là, mais
parle dans le micro. Parle dans le micro si tu veux quelque chose. Sinon, on t'entend pas.
Non, mais ce qui est certain, c'est que oui, je le dis pas pour vous faire plaisir, je le dis parce que ça me semble hyper important. C'est l'expérience Pleine Image. Elle est étroitement liée à l'existence de Bliss. Sans Pleine Image, Bliss ne serait. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que ça n'aurait pas existé, mais ça n'aurait peut-être pas existé de la même manière, sous la même forme. Voilà. Et ça aurait été sans doute beaucoup plus difficile.
Et même, c'est une chance, parce que moi, je me souviens quand j'ai commencé à travailler, j'avais déjà en tête me dire j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai des idées, j'ai envie de monter une boîte parce que. Enfin, j'ai pas envie de monter une boîte pour monter une boîte, j'ai envie de monter une boîte pour être libre, en fait, pour être indépendant. Et si je veux faire un truc, si j'ai envie de me planter, je me plante comme j'ai décidé. Et si j'ai envie de réussir, j'ai réussi comme j'ai décidé. Et en fait, je ne pensais pas que c'était possible. Et en fait, on m'a prouvé que oui, en fait, avec la Pleine Image. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que c'est possible. En fait, ils ont peur de se lancer parce qu'ils se disent « Oh, j'y arriverai jamais, il n'y a personne à faire mon projet, où ça va aller ?» Et en fait, quand on se rend compte qu'on peut être aidé ici à développer son projet, je pense que c'est génial. Et voilà, j'arriverai pas à terminer cette phrase. C'est ça qui est cool.
Un conseil aussi, quand même, en plus, il faut en avoir un peu chié aussi avant. Ça aide encore plus.
Ouais, faut aller.
C'est important.
Allez bosser dans des boîtes que vous aimez pas, et puis comme ça, après, vous allez encore plus la niaque. Voilà. Ou alors, allez bosser dans une boîte que vous aimez bien aussi.
Après, on n'en parle plus. Voilà.
Moi, c'était bien aussi chez Avolut. Et big up à Avolut. Hein. Merci pour toutes ces années à avoir acquis autant de compétences. C'était vraiment cool. Bravo.
Bon, un grand merci en tout cas pour tout ça. Ben, ça fait plaisir. C'est touchant. Enfin, vraiment, honnêtement, sincèrement. Et merci beaucoup d'être venu pour ce podcast ensemble.
Ah, pour rien cacher, on enchaîne sur une réunion musique tech également, qui est notre initiative de la Pleine Image. Et donc, on fait d'une pierre deux coups. Mais merci beaucoup pour l'invitation, Blandine.
Et bah, bientôt, un mot de la fin.
Un mot de la fin.
Si, parce que, en tout cas, la musique, ce n'est pas juste un produit, c'est quelque chose qui justement a une dimension assez sacrée, et on est heureux de contribuer justement à apporter dans la vie des gens quelque chose qui permet d'améliorer son quotidien. Et la musique est très important. Et faites de la musique. Voilà,
ce n'est pas un mot, c'est un paragraphe.
Bon, merci beaucoup. Je mets tous les liens qui vont bien dans la présentation du podcast, sans oublier le couscous surtout.
Ouais.
Et voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt.